Vous écoutez IDFM, il est 18h.
Bonsoir, vous êtes bien sur IDFM, bienvenue dans notre émission Entre chiens et loups, l'émission culture d'IDFM avec Claude Lévy. Ce soir, je vous propose une rencontre avec les mots, avec les corps, avec la peau, avec la mémoire, avec les rêves, avec les livres, avec la poésie, avec la liberté. Vous allez trouver que ça fait beaucoup, mais en fait, pas tant que ça. Et nous allons essayer de tresser tous ces fils de façon harmonieuse avec notre invitée. Elle sait de quoi elle parle, puisqu'elle a créé il y a plus de 20 ans l'atelier d'écriture thérapeutique pour les patients de l'hôpital Sainte-Anne. Elle est psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie, mais aussi passionnée de littérature. Dans son dernier ouvrage, Les bienfaits de l'écriture, les bienfaits des mots, aux éditions Odile Jacob, elle nous donne très généreusement les clés de ses ateliers qui ouvrent des portes et des fenêtres sur le monde, sur les autres, sur soi-même, que l'on soit vraiment très névrosé ou pas du tout. Bonsoir Neila Chidiac.
Bonsoir Monsieur Lévy.
Bonsoir à tous.
Merci de nous recevoir chez vous, à Paris, pour cette séance, non pas de thérapie, mais de tissage, de tressage de tous ces fils qui fabriquent nos vies et qui ont façonné toutes celles de vos patients avec leurs accros et leurs déchirures. Neila Chidiac, aimez-vous les fils et les étoffes? Et à quoi cela peut-il vous amener? Vers quels souvenirs et quelles sensations?
Oui, j'aime beaucoup tout ce qui est étoffe, tissu, patchwork, tapisserie. Peut-être à cause du dessin dans le tapis ou du dessin sur ce tissu et de ce qu'il y a de l'autre côté du tissage, c'est-à-dire le tissage en lui-même. Si on regarde à l'envers d'un tissage, ça fait penser aux rhizomes. Donc, bien sûr, je pense à certains philosophes qui ont parlé des rhizomes, mais aussi à Conrad qui a parlé du dessin dans le tapis. Et je fais un lien automatiquement avec mon sujet de prédilection, qui est le traumatisme psychique, que je compare à une déchirure de l'espace et du temps. Et quelque part, l'écriture est un tissage possible de cet espace et de ce temps.
Oui, vous parlez de l'envers du tapis qui, en fait, donne le sens de la réalité des choses. Ce que l'on ne voit pas est peut-être ce qui est le plus révélateur. Est-ce que c'est ça, au fond, le travail de thérapeute, Neila Chidiac?
Oui, je souris parce que j'ai l'impression que, comme on est dans mon lieu de travail, effectivement, c'est l'envers, non pas du décor, mais de la personne. C'est-à-dire que la personne, quand elle vient dans ce lieu, pour avoir sa séance, il va y avoir ce qu'on voit. Et lorsqu'elle va raconter sa vie, c'est ce qu'on voit à l'envers du tapis ou du tissu. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on voit, mais il y a, comme vous dites, le sens, mais aussi son histoire, son passé, et peut-être ensemble nous tisserons son futur.
Alors, nous allons évidemment parler d'écriture et de littérature, de musique aussi, et de voyage, mais avant d'entrer, ce qui fait l'objet de ce livre, les bienfaits de l'écriture, les bienfaits des mots, j'aimerais vous demander de quelle étoffe étaient faits vos rêves d'enfant. Quelles images en gardez-vous, Neila Chidiac?
Des étoffes de couleur, des étoffes de soleil, des étoffes d'odeur de jasmin et de gardénia. Voilà ce qui me vient. Et beaucoup, beaucoup de rêves qui sont partis de lecture. J'ai commencé à lire très, très jeune, mais aussi on m'a raconté des histoires très, très jeune. Donc il y a quelque chose avec l'oralité de la narration, et puis ensuite l'écriture, donc les histoires, les rêves et les fabrications. Tout cela coloré par beaucoup, beaucoup de douceur et de couleur.
On sent en effet à la fois les lumières, les couleurs et la douceur qui nous emmènerait vers quelle rive ?
Vers l'Orient, la Méditerranée et plus précisément le Liban, où je trouvais toujours que le soleil était comme une balle rebondissante.
Le Liban qui a produit de grands poètes, avec un humour très, très particulier, mais avec un grand sens de la poésie qu'on retrouve en grande partie chez vous d'ailleurs, même y compris dans votre travail de thérapeute.
Oui, merci de l'avoir souligné. On le remarque pas très souvent, mais c'est vrai que ça aide, l'humour aide beaucoup, surtout dans le traumatisme psychique. Mais bon, le Liban, c'est aussi les Phéniciens, l'alphabet, mais aussi un poète que j'aime infiniment qui est entre l'Occident et l'Orient, qui est Georges Chéadé, qui a écrit de merveilleux recueils de poésie, dont Le nageur d'un seul amour, ou bien Poésie, tous édités chez Gallimard, Georges Chéadé, Vénus Kurigata, contemporaine, merveilleuse poétesse aussi, et puis tous les autres, bien évidemment.
Très, très belle filiation pour vous, Neila Chidiac. Votre livre, Les bienfaits de l'écriture, Les bienfaits des mots, est construit comme une grande maison. Alors, dans l'entrée, il y a des tas de gens, des tas de corps, et puis des mains. Il y a aussi des histoires. Et quelqu'un arrive, c'est peut-être vous, qui faites raconter leurs histoires à ces gens-là. Et est-ce que c'est bien ça qui constitue votre travail de thérapeute ?
J'aime beaucoup votre métaphore, je n'avais pas pensé à cette maison-là, mais c'est exactement ça, tout à fait. Je rejoins ce que vous dites et je vous remercie pour cette métaphore que j'utiliserai certainement un jour.
Et on n'a pas fini de la visiter, cette maison, puisque là, on est pour l'instant dans l'entrée avec, l'histoire humaine. L'histoire humaine qui, avec des traces extrêmement anciennes, mais qui donnent encore leurs effets aujourd'hui. Et dans l'idée des traumas psychiques sur lesquels vous travaillez avec vos patients, il n'y a pas tellement d'écart. Il y a un écart dans le temps, hein, entre les très anciens ancêtres que nous avons et ce que vos patients vous racontent aujourd'hui. Il y a aussi comme un effet de libération. Le travail que vous avez entrepris, vous allez peut-être nous en dire quelques mots, à Sainte-Agne, il y a une vingtaine d'années, a permis à ces patients qui sont gravement atteints de difficultés mentales ou sociales, ou les deux, l'atelier que vous avez mis en place a permis cette libération. C'est bien ça qu'on essaye de voir dans ce bienfait. C'est peut-être plus une question de libérer que d'être dans le bien-être.
Oui, alors c'était certainement pas le bien-être comme visée première. Si je reviens juste un instant sur votre superbe métaphore, je dirais que dans cette entrée, puisque vous commencez donc à dire que c'est comme une maison et on est dans l'entrée, je dirais que déjà dans l'entrée, il y a des bibliothèques et il y a des fenêtres. Et que dans cette maison qui est la métaphore de ce livre et de mon travail, il y aurait beaucoup, beaucoup de fenêtres et ce seront ces fenêtres qui seront la libération de la parole. Une maison sans fenêtres, ça peut être oppressant. Mon travail a nécessité de pouvoir fonder ces ateliers d'écriture à l'hôpital Sainte-Anne, à la clinique des maladies mentales et de l'encéphale plus exactement, où effectivement j'avais des patients adultes en ambulatoire et ou hospitalisés qui avaient, je dirais, pour préciser, parce que les mots sont importants, des difficultés certes, mais surtout une très grande souffrance psychique, quel que soit leur diagnostic. Et dans l'atelier d'écriture, on ne s'occupait pas du diagnostic, on s'occupait de cette souffrance et de voir comment on pouvait transformer, si possible, cette souffrance. Et c'est à partir de l'écriture et de la lecture, dans un cadre très bien défini, j'insiste sur cette notion de cadre, voire même une mise en abîme de cadre, pour pouvoir permettre à la liberté de s'exprimer, à la souffrance de s'exprimer, et par-delà, non pas rester dans cette notion de catharsis qui est bien sûr nécessaire lorsqu'on écrit et qu'on s'exprime, mais la visée thérapeutique, c'est pour ça qu'on va parler d'atelier d'écriture thérapeutique et non pas d'atelier d'écriture tout court, c'est qu'il y avait une visée thérapeutique qui est la transformation de cette souffrance qui passe nécessairement par l'élaboration. Et c'est là où l'aspect de la psychologie clinique, de la psychanalyse est importante.
Oui, en effet, c'est un véritable travail thérapeutique. Ce n'est pas le faire jouer les personnes avec les mots et les phrases. Mais ça existe aussi. Et voilà. Alors, quand on pense à ces lointains ancêtres qui ont tous été des raconteurs d'histoires et l'humanité n'a jamais cessé de raconter des histoires. Et vous parliez tout à l'heure de l'Orient lointain, mais c'est un fantastique puits d'histoires qui remonte et qui se raconte encore. Hein, on pense aux mille et une nuits, mais à bien d'autres encore. Et est-ce que, selon vous, on peut faire un parallèle entre les histoires anciennes qui se racontent avec des drames, de la violence, de l'amour, de la passion, des jalousies, tout ce qui existe dans l'humanité, et ce que l'on peut rencontrer chez des contemporains comme état de souffrance. Est-ce qu'on peut établir une sorte de parallèle entre les deux ?
Oui, absolument. Vous parliez des Mille et une nuits. Il y a aussi Gilgamesh, l'épopée de Gilgamesh, où cette amitié incroyable avec Enkidu et le rapport à la mort. Donc on retrouve toujours dans toutes les histoires, toutes les narrations, cette notion de tragédie. Parce qu'à partir du moment où on va vivre, on sait qu'on va mourir. Et donc on est confronté à ce réel à la fois absurde et difficile à conjuguer dans le monde des vivants, où l'on retrouve cette souffrance psychique qui concerne les patients qui ont eu un traumatisme, ou dans l'enfance, ou à l'âge adulte, bien évidemment. Et il est nécessaire de pouvoir, bien sûr, poser un cadre. Et quel meilleur cadre que l'histoire, que la narration ? Et comme le dit Salman Rushdie, un auteur que je cite dans le livre, il le disait lors d'une interview qu'il avait effectuée à Nantes, il disait « L'être humain est le seul à qui on raconte des histoires et qui raconte des histoires. » Donc c'est un besoin inhérent à l'être humain, c'est ce qui nous différencie. Nous sommes les seuls à nous mettre en scène. L'animal joue, mais il ne se met pas en scène. On se met en scène. Depuis qu'on est petit, on se met en scène, et même adulte, on se met en scène. Donc il est nécessaire, me semble-t-il, quand il y a une souffrance psychique, de pouvoir la mettre en scène pour pouvoir prendre une distance, l'élaborer et la transformer.
Et ce sont les mots qui vous permettent d'élaborer et de mettre en scène et vous de restituer ce qui se raconte dans ces textes.
Oui, alors moi je ne vais pas beaucoup intervenir. Alors on va penser que je ne fais pas grand-chose, mais c'est le patient qui fait le plus grand du travail. Moi ce que j'apporte c'est effectivement un cadre thérapeutique, ma capacité en tant que clinicienne de connaître plus ou moins où se situe le patient dans sa souffrance, parce qu'on ne peut pas s'improviser comme ça du jour au lendemain à vouloir mener un atelier d'écriture thérapeutique. Bien évidemment j'insiste sur la notion thérapeutique parce qu'on ne peut pas proposer un sujet d'écriture, ça peut être très douloureux, ça peut être l'ouverture d'une grande plaie. Mais effectivement, en restituant et en composant. Poésie veut dire composer. Donc on va créer une autre histoire, une histoire, pour pouvoir regarder cette histoire qu'on n'ose pas regarder parce que trop douloureuse, pour pouvoir s'éloigner du point de douleur et trouver des stratégies pour s'en sortir, il faut déjà pouvoir regarder le problème. Donc, en écrivant, il y a une mise à distance et ensuite, je vise, j'espère, l'élaboration et donc le dépassement. Un très beau livre d'un thérapeute, psychologue, René Caes, s'intitule « Crise, rupture et dépassement ». Et je vise en fait le dépassement.
Très intéressant. Et ce que j'aimerais, c'est que vous... parce que dans la souffrance, il y a quelque chose de profondément personnel et intime. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi consiste l'intime? Comment vous définiriez ce concept?
L'intime, son étymologie, c'est intimus, donc qui vient de l'intérieur. Et tout de suite, c'est l'écriture du journal intime. Ce secret ou pas qu'on garde à l'intérieur et qu'on va livrer dans un cahier, à un papier ou comme Primo Levi sur des tickets de métro. Seulement dans l'écriture intime, dans l'écriture du journal intime, on peut être confronté à une certaine répétition. Les ateliers d'écriture, ce qu'ils vont apporter de plus, c'est pouvoir sortir de cette répétition traumatique ou pas, de la souffrance, pour pouvoir avoir d'autres voies de pensée.
Vous donnez des définitions extrêmement intéressantes de l'intime dans la complexité. Vous dites, c'est pas parce qu'on raconte une histoire personnelle qu'on est dans l'intime. Il y a quelque chose de plus profond, de plus complexe et en même temps de plus simple.
Oui, absolument. Il faut savoir que il n'est pas nécessaire de demander de manière comme une confrontation, racontez-moi votre tragédie lorsque vous aviez 15 ans. On peut se raconter et raconter des choses en passant par des biais très différents. Lorsque je demande, par exemple, vous avez 30 minutes pour raconter la page du journal intime d'un coquillage, si la personne veut se livrer, elle se livre. Si elle veut aller dans la fiction, elle va dans la fiction. Il y a une liberté qui est donnée dans un cadre très strict qui est le temps et la contrainte littéraire.
Nous allons y revenir, au temps et à la contrainte. Vous mettez, alors c'est très, très intéressant dans ce livre, vous mettez vous-même à l'épreuve de l'atelier que vous proposez à vos patients et avec les lettres du mot « écrire ». Vous créez un acrostiche. Un acrostiche, et vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Écrire, c'est E comme explorer, C comme creuser, R comme réconcilier, I comme inventer, R comme rencontrer, E comme élaborer. Alors, je peux vous demander, lequel de ces six mots est pour vous le plus important entre explorer, creuser, réconcilier, inventer, rencontrer, élaborer? Naïla Chidiac.
Alors, je vous dirais qu'un des mots magiques que mon maître en psychanalyse m'a enseigné, et c'est Michel de Musan, c'est qu'il y a un petit mot magique en thérapie qui aide beaucoup, qui est le ET. Et j'ai envie de vous dire, eh bien, c'est chacun de ces mots. Je ne veux pas choisir.
Et puis, on peut vous faire jouer au jeu que vous proposez également à vos patients, c'est d'en associer deux.
Ok, alors je dirais explorer et creuser.
Explorer et creuser. Alors, on va explorer et creuser aussi vos goûts musicaux et on va peut-être écouter un de vos choix qui vient d'assez loin, de la Jamaïque. Vous êtes amoureuse d'une infinité de genres musicaux, mais vous avez choisi de nous faire écouter Bob Marley.
Absolument, Jammin' de Bob Marley. Merci beaucoup.
All right, well,
Vous êtes bien sûr IDFM dans l'émission Entre Chien et Loup qui se poursuit avec Claude Lévier. Nous sommes ce soir en compagnie de Neila Chidiac qui publie aux éditions Odile Jacob les bienfaits de l'écriture, les bienfaits des mots. Alors il y a une notion très importante que vous soulignez tout au long de ce livre sur l'écriture, c'est la notion de temps. Je dirais la notion de délai et, pour employer un mot de la psychanalyse, la notion de latence. Il y a un temps de latence. Pourquoi est-ce que pour vous c'est si important cette notion-là ?
J'aime beaucoup votre lien avec le temps de latence. Alors, c'est important parce que je souligne dans le livre, au tout début, à un moment donné, cette importance que j'accorde à l'écriture à la main. Pour passer de cette verticalité à l'horizontalité où on est couché pour écrire, je veux dire, le geste, on est en avant. Il y a quelque chose de l'ordre de ce geste, de l'acte d'écrire, qui fait que automatiquement mes pensées vont très vite, mais si je dois retranscrire à la main, ça va aller plus doucement, beaucoup plus doucement qu'à l'ordinateur, même pour les graphomanes, ceux qui peuvent écrire 30 pages en 10 minutes. Mais il y a quelque chose de l'ordre du temps de latence entre mes pensées qui jaillissent et la phrase qui va en sortir, et qui est pour moi comme une notion de filtre où beaucoup de choses vont se passer. Et comme dirait René Char, les mots savent de nous ce que nous ne savons pas encore.
Alors ben justement, on va vous faire, je vais vous demander de lire un extrait du livre où il est question justement de cette accélération ou de ce ralentissement du temps. Neila Chidiac, on se trouve page 88.
Alors, notre présence aux autres n'est possible que si nous diminuons, voire nous arrêtons d'être en permanence connectés à un ailleurs qui semble plus pétillant, plus vivant. En écrivant, nous réapprenons à être là. Nous écrivons plus que jamais, étonnamment, mais sans réellement nous adresser à qui que ce soit, encore moins à nous-mêmes. S'écrire, c'est se raconter, et ainsi poser doucement une distance permettant, lorsque nécessaire, l'éloignement du point de douleur ou, inversement, l'appréciation d'un moment de grâce.
Voilà, il faut à la fois se garantir ou se préserver de la douleur, mettre du temps entre nous et les choses. Parmi les drames de l'existence, les traumas psychiques qui passent devant nous, que nous sommes tous les uns et les autres, thérapeutes ou pas, amenés à rencontrer, ceux qui déchirent les certitudes, ce sont les pertes, les abandons, les deuils. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que cela représente, ces traumas, pour les êtres humains ? Qu'est-ce que ça représente ?
Alors, tous les traumatismes psychiques sont excessivement douloureux et complexe. Si je rebondis sur votre question qui concerne les deuils, finalement, ce qui est très complexe, c'est cette notion de perte, ce vide, cette confrontation au néant, mais aussi à la possibilité de penser de sa propre perte à soi. Donc il y a un double mouvement à la fois de la perte et ce renvoi à notre propre vie et ce qu'il en est. L'enfer de Dante nous montre bien ce chemin énorme de ce que c'est que de la perte. Donc Dante dit que c'est la perte de Béatrice. Ils se disputent tous, on ne sait pas encore si c'est ça ou autre chose. Quoi qu'il en soit, cet enfer, c'est l'enfer de l'exil et de la perte de l'être aimé. Donc l'enfer, ce n'est pas ce qu'il y a après, c'est ce qu'il y a ici. Ici, dans notre passage sur Terre, qui est la perte de l'être aimé. Donc c'est ça qui est très douloureux. Et Freud disait, qu'est-ce que c'est que l'écriture, si ce n'était l'écriture de l'absent ?
Ah oui, c'est très, très profond et ça nous emmène très loin. L'écriture, c'est l'écriture de l'absent, l'écriture de l'absence. Mm-hmm. L'absence a aussi, ça fait partie de ces grands drames de l'être humain. Il y en a d'autres. Je pense à l'humiliation, à la blessure, à la pauvreté, à la misère. Comment est-ce qu'on peut se reconstruire après cela ? Vous qui avez rencontré tous ces êtres-là, hein, qui étaient dans la salle, dans l'entrée, et que vous avez accueillis dans votre cabinet, dans votre atelier.
C'est très différent parce que j'aime toujours dire que chaque être humain est unique. Donc chacun a son histoire et quand ils viennent consulter, il y a leur histoire à un moment donné de leur vie. Donc à un moment donné d'une tragédie, parce qu'on ne vient me voir que quand ça ne va pas, n'est-ce pas ? Donc très souvent, on vient pour un traumatisme qui est là, soit seul, soit très souvent qui vient réveiller ou révéler un autre traumatisme. Donc j'ai souvent plusieurs traumas, plusieurs couches de traumatismes à aider le patient à élaborer.
Vous avez une formulation que je trouve admirable. Vous dites, dans le traumatisme psychique, le thérapeute est confronté à la pensée trouée, on retrouve le tissu, à la pensée trouée, gelée, et à l'effroi du patient. Alors, on peut se demander comment l'écriture peut raccommoder tout cela.
Oui, effectivement, il y a très souvent chez ces patients une sidération. Donc, quelque chose est figé. Et c'est là où j'insiste à donner des formes différentes, des contraintes littéraires très différentes, parce que je pars du principe que ce n'est pas le contenu qui va être important, mais ça va être le contenant. Si la personne arrive à penser en forme de haïku, en forme de quatrain, en forme de dialogue, en forme de slam ou d'acrostiche, ou avec tous les innombrables exercices que le mouvement ou l'hypo nous propose, à ce moment-là, il va y avoir un assouplissement de la pensée, un assouplissement du contenant de la pensée. Et c'est à partir du moment où le cadre de pensée, le contenant de pensée est restauré, donc je vais les aider à tisser le contenant de pensée, à ce moment-là, on pourra aller vers le contenu de pensée. C'est un peu peut-être un peu abstrait ce que je vous dis, mais voilà, la contrainte littéraire, plus elle est différente et plus ils arrivent à la manier avec dextérité et souplesse, plus ils vont pouvoir aborder les sujets où la pensée était figée. On va en fait dégeler la pensée en donnant des exercices très différents dans une mise en abîme de cadre du temps, cadre de la contrainte, et la contrainte est la voie ouverte à l'imaginaire.
Alors voilà des mots qui sont plus ou moins bien acceptés aujourd'hui. Le cadre, alors on travaille dans un cadre. Et on travaille avec des contraintes, mais aujourd'hui on n'a pas du tout envie de d'avoir des contraintes. Au contraire, on hurle à la liberté, on ne veut que de la liberté. En quoi la contrainte ? Vous avez cité l'Oulipo qui fonctionne justement, l'ouvroir de littérature potentielle créé par Raymond Queneau, François Le Lyodet, Georges Perec et bien d'autres. En quoi la contrainte peut aider des gens qui sont eux-mêmes dans des histoires un peu difficiles, peut les libérer, puisque c'est ça, c'est la libération à la fois du verbe, la libération du trauma.
Alors, ceux qui n'aiment pas les contraintes, il ne faut surtout pas qu'ils viennent dans mes ateliers d'écriture thérapeutique. Je vais citer une patiente qui me disait « Oh, Naila, j'ai horreur de quand vous nous donnez des haïkus. » Donc, haïku, je rappelle rapidement, petit vers japonais en trois vers, 5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes. Et quand je n'en donnais pas pendant quelques mois, elle me disait « Mais Naila, et le haïku ?» Je disais « Mais il faut savoir, vous voulez des haïkus, vous ne voulez pas des haïkus ?» Et je remercie au passage mes stagiaires qui ont fait passer des échelles d'évaluation. Donc, tout ce que je vous raconte ont été évalués avant, pendant et après les ateliers d'écriture. Et quelle ne fut ma surprise de voir que toutes les contraintes qui étaient données, et plus il y en avait, plus ils étaient contents, parce qu'ils disaient, plus il y a des contraintes, plus j'arrive à dire ce que je n'ose pas dire. Et ce qui était étonnant, c'est qu'ils ajoutaient très souvent des contraintes à la contrainte. Par exemple, un haïku ne rime pas, il les faisait rimer. D'ailleurs, si vous donnez un abécédaire à faire sur la colère à quelqu'un en 20 minutes, des mots vont jaillir qu'ils n'auraient pas pensé avoir même dans leur syntaxe.
Alors, vous avez une multiplicité d'exercices que vous avez vous-même pratiqués et que vous donnez comme travail aux personnes qui viennent vous voir. Mais j'aimerais que vous nous détailliez un tout petit peu des indications que je trouve très, très intéressantes. Si ces idées ne vous suffisent pas, essayez les instructions suivantes. Alors, vous en avez un certain nombre que vous pouvez proposer.
Par exemple, entrée de journal chronométré, choisissez un sujet et réglez une minuterie sur 10 ou 15 minutes pour écrire en continu. Ou bien, rédigez en l'espace de 20 minutes une liste de 100 envies. Alors là, en général, les patients bloquent parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'envie et ça va les pousser. Ou bien commencer une liste par ma façon préférée de passer la journée et la suivante. Si je pouvais parler à mon adolescence, je n'aurais que 2 choses à dire, les voici. Ou bien faire une liste de 30 choses qui vous font sourire. Les mots avec lesquels je voudrais vivre sont, à vous de les lister. Qu'est-ce qui m'amène toujours les larmes aux yeux, à vous de lister, etc.
Voilà, c'est très intéressant parce que ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, peuvent trouver là le moyen, ils ont envie de se mettre à écrire, de prendre une feuille et de faire des petites listes. Ça a l'air de ne pas engager grand-chose, mais en fait, il se révèle encore un autre envers du tapis.
Exactement. Par exemple, je cite Joe Bernard, qui lui a créé en fait la liste du « je me souviens » qu'on attribue à Perec. Et j'ai proposé donc de faire 10 « je me souviens », une liste de 10 « je me souviens » et 10 « je ne me souviens pas ». Donc ça, c'est mon invention, si je puis dire. Et donc, c'est intéressant, si vous donnez ça à quelqu'un à faire en 30 minutes, c'est très étonnant de voir ce qui peut surgir et ce qui ne peut pas surgir. Très souvent, on me dit, mais Naila, si je ne me souviens pas, c'est que je ne me souviens pas. Je dis, mais c'est pas grave, c'est de la fiction. De quoi est-ce que vous ne vous souvenez pas?
Alors, je crois que vous vous souvenez de quelque chose, de musique qui vous touche encore, qui vous ont touché, que nous avons un peu partagé, c'est Astro Gilberto et Stan Getz. Est-ce que vous pouvez nous rappeler vers quoi ça vous emmène, Only Trust Your Heart?
Only Trust Your Heart, la bossa nova, le Brésil, la fête, la musique et puis surtout les couleurs, encore et toujours. Trust your dream when you're about to
Voilà, toujours sur IDFM, radio entre chien et loup, en compagnie ce soir de Neila Chidiac, psychologue clinicienne, créatrice d'ateliers d'écriture et passionnée de littérature. Alors dans cette grande maison qu'est votre livre, il y a une pièce importante, c'est évidemment la bibliothèque. Vous lui consacrez une grande partie en faisant appel aux 26 lettres de l'alphabet que vous avez transformées par contrainte en 26 auteurs que vous aimez et qui ont déclenché en vous un travail d'écriture. Pouvez-vous nous dire comment s'est fait le choix et ce que vous en avez fait, Neila Chidiac?
Alors c'était très difficile, j'avais très envie de parler donc de cette bibliothèque qui m'accompagne dans ma vie depuis très longtemps et je me suis dit je vais me donner une contrainte, donc la première partie du livre parle de choses et la deuxième est un atelier d'écriture que je me suis donné à moi-même, il n'y a pas de raison, je propose des ateliers d'écriture. Alors j'ai choisi l'alphabet, donc c'est un abécédaire, c'est une forme qui existe depuis longtemps et à chaque lettre correspond un auteur et il fallait donc faire un choix. Et ce choix était cornélien, parce qu'il y a plusieurs lettres où j'en aime autant, plusieurs. Donc parfois c'était par des choix, genre je veux que des personnes qui sont, des auteurs qui sont morts. Après je ne pouvais pas ne pas citer certains auteurs encore vivants que j'affectionne particulièrement. Donc je devais faire des choix, je ne voulais pas des auteurs qui s'étaient suicidés, mais il y en avait que j'aimais trop pour ne pas les citer. Donc encore des choix et des choix cornéliens. Et puis il y a eu parfois, voilà, c'était par concordance ou par passion ou par, comme disait Éluard, hasard, et c'était un rendez-vous.
Alors une auteure avec un E, que j'aime pas trop le mot autrice, une auteure avec ou sans E que vous avez cité, qui commence par la lettre D, que vous n'aimiez pas forcément à une époque, et qui dit quelque chose de très fort. Il s'agit de Marguerite Duras, et vous, vous en dites quelque chose de très fort. Vous citez, enfin, je crois que c'est... des mots de Duras, pour ceux dont l'exil fait partie de l'histoire, l'écrit serait leur pays. pourriez-vous nous préciser ce que peut l'écrit par rapport à soi-même et à un pays qu'on a quitté? Il y a beaucoup parmi vos patients, j'imagine, et parmi ceux qui nous écoutent, ceux qui ont dû quitter un pays. Et ce que dit Marguerite Duras, je trouve, est assez remarquable. Pour ceux dont l'exil fait partie de l'histoire, l'écrit serait leur pays. L'écrit comme pays.
Oui, absolument. C'est une phrase que j'aime beaucoup, qui me touche à plusieurs niveaux. Et je racontais dernièrement à un colloque que l'écriture, c'est la demeure de l'intime. Je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, l'intime qui est l'opposé du privé, qui n'est pas le privé, c'est pas l'opposé, ce n'est pas le privé. Et je faisais référence à Virginia Woolf aussi, qui parle d'une chambre à soi, et j'avais extrapolé à ce carnet à soi. Et lorsqu'on s'en va, lorsqu'on part, lorsqu'on n'a plus rien, on peut avoir un carnet, un stylo, et ce carnet à soi devient l'équivalent de la chambre à soi, où qu'on soit. Donc l'écriture devient un pays, devient une demeure, devient même par moments, lorsque l'effondrement peut advenir, l'écriture devient une colonne vertébrale.
Très, très belle image de l'écriture comme colonne vertébrale, et on voit le dessin des vertèbres et inscrire quelque chose dans notre façon de nous tenir ou pas debout. Un autre auteur qui commence par F, dont on pense pas forcément que ce soit un très grand auteur, mais vous avez quand même une acquaintance avec lui, c'est Sigmund Freud. Est-ce que pour vous, Naïla Chidiac, c'est une sorte de modèle comme thérapeute? Qu'est-ce que vous aimez en lui, Sigmund Freud? Est-ce que c'est l'écrivain, le médecin, le thérapeute?
Le rêve est la voie royale de l'inconscient. C'est ainsi que j'ai découvert Freud, lorsque je faisais un exposé sur le surréalisme. Et c'est ainsi que je suis tombée amoureuse à la fois de Paul Éluard et de Freud. Donc ce que j'aime surtout en Freud, c'est bien sûr les mots, son rapport aux mots, au langage, bien sûr son travail et la découverte de l'inconscient, qui fait partie pour moi des plus grandes découvertes de l'époque, mais surtout son rapport au langage, l'importance qu'il a accordée aux mots, et puis tous ses écrits qui sont pour moi d'un très grand niveau littéraire. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être psy pour lire Freud, il suffit d'être intéressé par la littérature, ou par le conscient et l'inconscient, ou par l'être humain tout court, et lire Freud.
Qu'est-ce que vous pourriez nous suggérer comme lecture? Est-ce que le totem est tabou? Est-ce que les cinq psychanalyses? Est-ce que l'interprétation des rêves? Vous parliez des rêves?
Oui, l'interprétation des rêves, le bloc-notes magique. J'aime beaucoup ce qu'il a écrit sur un livre tout petit, tout fin, sur l'acropole, le souvenir de l'acropole, qui est un petit livre merveilleux sur la capacité qu'on a à oublier des souvenirs et comment ils reviennent et le lien qu'on fait avec un passé qu'on n'a pas voulu voir. Souvenir de Léonard de Vinci. Voilà, toutes ces petites notes d'écriture qui sont fabuleuses, qui sont juste édifiantes.
Y compris son propre journal d'analyse, son auto-analyse. Je vais vous avouer mon ignorance, chère Naïla, c'est que vous avez un livre qui est assez fétiche pour vous, c'est le Fusil de chasse de Yasushi Inoue, et vous êtes déjà en posture de Bouddha. Pourquoi ce choix? Mais avant de vous laisser répondre, j'aimerais citer ces mots que vous mettez en exergue de ce chapitre consacré à Inoue. Voilà ce qu'il dit. « Il me semble qu'un homme est bien fou de vouloir qu'un autre le comprenne. » Alors là, c'est vous êtes dans la vraie folie, vous aussi.
Complètement. Je trouve cette phrase sublime, surtout pour les thérapeutes, c'est-à-dire n'oublions jamais notre humilité. Nous ne pourrons jamais tout comprendre, il faut accepter cette idée. On peut faire de notre mieux, et c'est déjà énorme. J'adore Inoue pour la raison suivante. Bon, d'abord, j'adore la littérature japonaise, mais Inoue avec le fusil de chasse, ce petit roman pas très épais, va en fait lever un voile qui est celui de « on peut comprendre les choses de manière différente ». Il donne des angles de vue différents. En fait, il raconte une même histoire vue de trois personnes différentes. Et ça, c'est énorme, parce que malheureusement, surtout à notre époque, on ne pense plus. Il y a quelque chose de l'ordre de la presque monomanie de pensée. On pense ce qu'on nous dit, ce qu'on entend, et on oublie de vraiment penser. Et le fusil de chasse vous permet de penser de manière différente. Donc il y a cette notion de relativité et de mise à distance qui est nécessaire.
Donc ça contribue à se libérer, la littérature comme moyen de se libérer de ses préjugés, de ses préoccupations, des idées toutes faites ou des idées des autres.
J'aurais très envie de dire d'avoir l'audace de penser. On perd cette audace aussi pour aller vite. C'est pas seulement par manque de courage, c'est très souvent pour aller vite. Il faut aller vite, il faut aller de plus en plus vite. La littérature va vous permettre de prendre ce temps de latence dont vous parliez précédemment, Claude Lévy, et qui est important, parce que pour penser, il faut avoir un peu de temps. Et cette audace de penser, elle est à la fois temporelle, à la fois avec le courage, et à la fois avec un étayage différent.
Nous allons aller vers la Lune, si vous voulez. Vous nous invitez avec vos choix musicaux. Vous nous proposez d'écouter Ella Fitzgerald. Et peut-être elle va nous emmener vers la Lune qui est très loin. Et il faut du temps pour y aller. How high the moon?
Somewhere there's music. How faint the tune. Somewhere there's heaven, how high the moon. There is no moon above when love is far away too. Till it comes true that you love me as I love you. Somewhere there's music, it's where you are. Somewhere there's heaven, how near, how far. The darkest night would shine if you would come to me soon. Until you will, I'll steal my heart. How high the moon. High the moon is the name of the song. How high the moon, though the words may be wrong. We're singing it because you ask for it. So we're swinging it just for you. How high the moon, does it touch the stars? How high the moon, does it reach up to Mars? Though the words may be wrong to this song, we're asking how high, 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 high is the moon. Boo, 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 dee, dee, doo, da, boo, 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 doo, 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 doo. Though the words may be wrong to this song, we hope to like high, 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 high is the moon.
Voilà, toujours sur IDFM, dans l'émission Entre chien et loup avec Claude Évier, nous évoquons le travail d'écriture comme outil de libération de l'intime. Avec Naïla Chidiac, créatrice de l'atelier d'écriture de l'hôpital Sainte-Anne et thérapeute. Dans votre bibliothèque, il y a une sélection de seulement 26 auteurs. Donc énormément de frustration. Qui auriez-vous aimé ajouter à la galerie, Naïla Chidiac?
Il y en a tellement que j'aurais aimé ajouter, mais me vient tout de suite à l'esprit Robert Desnos en poésie, et puis Sylvain Tesson parmi les contemporains, et puis Mishima, bien évidemment, Kawabata, voilà, plein d'autres. Raymond Carver, ça ne s'arrêtera pas, je pense. C'est très, très frustrant, je l'avoue.
On va revenir un peu au drame de l'existence qui façonne l'étoffe, aux étoffes, je disais, dont nous sommes faits. Mais il y a aussi l'humour qui permet aux auteurs de prendre de la distance avec ces drames. Vous citez Nabokov, mais il y a une formule de Pessoa qui me fait mourir de rire. Voilà ce que vous en dites, ou ce qu'il dit. L'âme humaine est un asile de fous peuplé de caricatures. Comment comprenez-vous cette phrase, vous qui connaissez à la fois l'âme humaine et les asiles de fous?
J'adore Pessoa, voilà, et Cortazar aussi. Je la comprends comme étant, encore une fois, un petit lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur cette humilité que nous avons tous à avoir, parce que la folie, elle est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Et puis, comme le disait Bergeret, la ligne entre le normal et le pathologique est tellement infime. Donc il faut rester très respectueux, prudent, et surtout, surtout avoir beaucoup d'humour pour avancer sur la pointe des pieds.
On essaye de le faire. J'aimerais finir cette émission par un de vos chouchous qui est à la lettre G, c'est Romain Gary. Alors on peut le mettre aussi à la lettre A, mais qui écrit comme Romain Gary dans La promesse de l'aube, lorsqu'il fait un peu l'histoire de sa vie, voilà ce qu'il dit. Je devais un jour opter pour la littérature, qui me paraissait le dernier refuge sur cette terre de tous ceux qui ne savent pas où se fourrer. Êtes-vous de cela, Naïla Chidiac? Avez-vous trouvé refuge à la fois dans les asiles et dans la littérature?
Je dirais que, alors lui il parle dernier refuge, moi je dirais que c'était le premier refuge, et c'est la poésie le premier refuge aussi de l'écriture, c'est-à-dire on devient soi-même aussi lorsqu'on apprend à écrire son prénom. Donc prendre un crayon et écrire son prénom, tracer les premières lettres, a été les premières fondations de cette métaphore de la maison dont vous parlez. Mon refuge est certes la littérature, les asiles c'est un passage, bien évidemment, un passage qui a été très riche pour moi, mais la littérature a été l'alpha et j'espère l'oméga de mon chemin.
Qu'est-ce que vous avez appris de la vie, Naïla Chidiac, les choses les plus importantes de la vie?
Il y en a tellement, mais je dirais que tout est dans la littérature.
Alors, précisément, on va écouter la phrase d'un des grands classique de la littérature française, mais aussi mondiale, qui est pas beaucoup lu, mais qui a fait l'objet peut-être d'une longue lecture d'été pour vous. Il s'agit de Chateaubriand, et j'aimerais que vous nous disiez cette phrase synthétise en quelque sorte le travail.
Écrire encore, ne pas laisser aux douleurs de la vie le dernier mot.
Très belle synthèse et très bel encouragement aussi à écrire. C'est bien ça que nous invite votre livre dont je rappelle le titre, Les bienfaits de l'écriture, les bienfaits des mots, aux éditions Odile Jacob. Un très grand merci, Neila Chidiac, pour cette traversée à la fois de l'humain, de la littérature, des mots, de la mémoire, de l'exil et de toutes les œuvres que vous avez pu nous citer. Il en reste d'autres. Un très grand merci, Neila Chidiac.
Merci à vous et très belle soirée. Merci encore.
Merci à Francky qui a réalisé cette émission. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle émission entre chiens et loups. D'ici là, portez-vous bien. Merci de votre fidélité et bonne soirée à l'écoute de nos programmes sur IDFM Radio. Bonne soirée à tous. Thank you.